carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Il descendit du ciel. L'incarnation dans l'art médiéval avec le père François Beusepflug. Noël, la nativité. Une des fêtes les plus importantes dans le monde chrétien et certainement un des thèmes le plus représenté dans l'histoire de l'art. La tradition aime à se représenter l'enfant Jésus né dans une étable, couché sur de la paille, entouré de Marie et de Joseph, le charpentier. L'imagerie populaire complète souvent le tableau en plaçant le nouveau-né sous le souffle de l'âne et du bœuf. C'est la scène de la crèche telle qu'elle s'est imposée. Mais une représentation de la nativité qui occulte quelque peu la portée mystique et théologique de la fête. Canal Académie a eu le privilège d'écouter une conférence du père François Beusepflug intitulée « Il descendit du ciel, l'incarnation dans l'art médiéval ». Père François Beusepflug, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu jusqu'à nous, jusqu'à ce micro.
Oui, volontiers.
Vous êtes théologien et historien de l'art. Et vous avez mené depuis plus de 30 ans une recherche iconographique sur l'histoire de Dieu dans l'art. Et vous venez d'ailleurs de publier aux éditions Bayard un imposant volume, un beau livre, comme on dit, et il est en effet beau et important, « Dieu et ses images ». Mais revenons à la conférence qui s'est tenue au couvent des Dominicains à Paris en ces jours de décembre 2008. Et vous y avez exposé le résultat de vos recherches, illustrations à l'appui, et vous nous avez fait découvrir une iconographie de la nativité tout à fait différente de celle que l'on connaît, et on peut dire très étonnante. Vous dites que dans l'art paléo-chrétien, ce n'est pas la crèche, ni la Vierge à l'enfant, ni la Sainte Famille qui ont retenu l'attention, mais l'idée de manifestation aux nations. Alors, pouvez-vous nous initier à ce mystère ?
Oui, volontiers, ça tient aussi à la liturgie, ou peut-être d'abord à la liturgie, en ce sens que Noël, avant d'avoir été une fête de la nativité, de la naissance, d'un nouveau-né dans une crèche, a été une fête de la théophanie, de la manifestation de Dieu aux nations, qui était regroupée en Orient avec la fête de l'adoration des mages, la fête du baptême du Christ au Jourdain et la fête des noces de Cana, qui ont en commun l'idée que le Christ, le Verbe de Dieu fait homme, sort d'une certaine manière de l'anonymat et de la clandestinité et se manifeste. Il se manifeste au baptême, dans la mesure où la voix du Père retentit, la colombe de Saint-Esprit descend. Il se manifeste aux noces de Cana, c'est-à-dire il vient d'abord comme un simple convive à un mariage, et puis il fait un miracle. Alors tout le monde se dit, celui-là, c'est pas n'importe qui. Bon, vous voyez. Et puis il se manifeste aussi lors de l'adoration des mages, c'est-à-dire que là, c'est clair que ça éclate le cadre, si vous voulez, du judaïsme étroit. Des gens venus de très loin, de l'Orient, de Sédou, de l'Arabie, de tout ce qu'on voudra, viennent ont été alertés par une étoile miraculeuse et se rendent à Bethléem en dépit des résistances d'Hérode. Bon, donc dans les trois cas, si vous voulez, vous avez l'idée commune que, au fond, cet enfant-là, un fils d'Israël, intéresse les nations générales et est quelqu'un d'absolument exceptionnel. Et Noël a d'abord été cela, c'est-à-dire la manifestation du Fils de Dieu fait homme et pour la rédemption du genre humain en entier. Vous voyez. Alors, ça n'a rien à voir d'abord avec l'attendrissement d'une mère devant son enfant, des bergers devant un nouveau-né qui est dans une crèche. Non, ça éclate ce cas.
Oui, d'ailleurs, vous évoquez trois naissances du Christ.
Oui, alors.
La naissance éternelle comme Verbe de Dieu.
Oui, la naissance temporelle de Marie, sa mère, et puis la naissance répétée mille fois, un milliard de fois, du Christ dans le cœur du croyant, qui ont été les trois aspects d'un processus de naissance, de germination, qui, à mon avis, dit quelque chose de très profond du christianisme. C'est-à-dire, le christianisme est une religion de la naissance non méritée, de la merveille d'une germination qui est Dieu dans le visible, le Fils dans le sein de Marie, l'idée christique dans le cœur et dans la pensée de chacun. C'est extraordinaire. Et cela a été fêté pendant des siècles, au moment de Noël, par trois. Les chrétiens, ce jour-là, avaient, non pas l'obligation, mais étaient encouragés à aller à trois messes successives, la messe de la nuit, naissance du Verbe dans le sein du Père, la messe de l'aurore, naissance de Jésus dans le sein de Marie, la messe du jour, naissance du Christ dans le sein du croyant, vous voyez, dans le cœur du croyant.
Oui, et donc ça peut s'adresser tout aussi bien à un public du 21e siècle,
ah, mais
finalement.
Ça n'a pas perdu beaucoup
mais on
d'actualité.
On a un peu cette notion des trois différentes naissances.
Bien sûr, bien sûr. C'est, oui. C'est même, je trouve, quelque chose de très vivant parce qu'elle décloisonne, vous voyez, ce qui concerne l'éternité de Dieu, ce qui concerne l'histoire du salut, et puis ce qui concerne l'aujourd'hui des gens qui, en 2008-2009, se disent bon, qu'est-ce que c'est que vivre de l'idée de Dieu et le réinventer en moi ? Bon, donc c'est quelque chose de très vivant, vous voyez, qui décloisonne.
Oui. Et donc là, nous arrivons à l'incarnation, la fameuse incarnation, qui est un des dogmes fondamentaux du christianisme, l'autre étant la résurrection, comme nous savons. Alors, ce thème de l'incarnation mérite un large développement, je pense.
C'est-à-dire qu'il faut rappeler quand même que le christianisme est une religion, un des trois monothéismes abrahamiques, qui sur ce point est tout à fait singulier, presque isolé. C'est-à-dire qu'il a été jusqu'à dire que l'amour du Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, pour l'humanité, a été jusqu'à livrer son fils pour qu'il fût d'abord fils d'homme et naisse d'une femme et puis meure sur une croix. Donc cette incarnation, effectivement, est, je crois, l'un des dogmes fondamentaux, peut-être même le dogme le plus fondamental du monothéisme chrétien. Alors on peut discuter de savoir si celui qui est le plus important ensuite, c'est la résurrection, comme vous le disiez, ou bien la Trinité, vous voyez, sur lequel bute aussi bien le judaïsme que l'islam, disant au fond, le christianisme a trahi l'essence pure du monothéisme puisqu'il a introduit quelque chose comme un trithéisme. Il n'en est rien, le christianisme n'entend absolument pas être un trithéisme, mais une religion de l'incarnation, c'est sûr. C'est-à-dire Dieu, le Verbe de Dieu, la pensée intime de Dieu, sa rumination intérieure se fait homme en Jésus. Bon, ça c'est absolument fondamental, bon, c'est sûr. Et cela a eu une date, et ça s'est passé dans un peuple précis, c'est-à-dire en Judée, à Bethléem, etc. C'est très circonstancié, et le christianisme tiendra toujours, je crois, à cette façon dont le Dieu Tout-Puissant et Éternel s'est vissé à un petit canton d'humanité, à un moment donné de l'histoire. Ça, c'est indépassable.
Oui, et en cela, ça recoupe quand même l'histoire.
Bien sûr, mais ça, oui. Et même ça fait plus que cela, la recouper, c'est-à-dire ça la croise et ça s'y visse. C'est pour
oui,
ça que j'emploie cette métaphore du vissage, si vous voulez. L'histoire éternelle de Dieu, c'est ce que j'essaye aussi de démontrer dans ce livre, si vous voulez, que j'ai publié chez Bayard, elle est vissée à, elle se marie, on pourrait presque dire, à un moment du Proche-Orient ancien, qui est la naissance d'Israël, bon, et puis à un moment de l'histoire subséquente, c'est ce qu'est devenu Israël au moment de l'Empire romain. Ben voilà, ça c'est Jésus de Nazareth est né dans ce...
Oui, oui. Et... D'ailleurs, enfin, vous venez un peu de l'évoquer, mais que disent les Écritures ? Jean l'évangéliste, par exemple, il dit donc « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu ». Alors là, on arrive donc à la substance de votre exposé. Comment représenter le Verbe auprès de Dieu ?
Alors, effectivement, c'est une sorte de défi pour la peinture. Il faut se souvenir de ce mot. Je crois qu'il est de Saint-Exupéry qui dit « L'essentiel est invisible aux yeux ». Je crois qu'il dit ça. « L'essentiel est invisible aux yeux » dans la bouche du petit prince communiquant avec le renard. Là, bon. L'essentiel est invisible aux yeux. Donc, ce secret de Dieu qui est sa pensée, sa volonté, son amour, sa préoccupation intime, comment voudriez-vous que les peintres le représentent ? Eh bien, d'une certaine manière, si les peintres ont osé le représenter à cause d'un verset de ce texte que vous citiez à l'instant, un peu plus loin, qui dit, Jean 1,18, « Dieu, nul ne l'a jamais vu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui, l'a révélé. » Alors du coup, si les peintres se sont appuyés sur ce verset pour se dire, bon, puisque la Bible dit ça avec des comparaisons, pourquoi le pinceau devrait-il s'interdire ce que la plume a eu le droit d'exprimer ? Donc, en christianisme, au fond, on a reconnu aux peintres une même liberté qu'aux rédacteurs de la Bible inspirée, vous voyez, de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, puisqu'ils ont employé des comparaisons, nous allons transcrire ces comparaisons en images. Et cela a donné des images très intéressantes du Père siégeant en majesté, ayant sur les genoux le Verbe divin représenté sous la forme d'un jeune garçon. Des représentations tout à fait étonnantes. Peut-être nous en parlerons tout à l'heure.
Oui, oui, quand vous allez peut-être nous commenter quelques images en détail.
Voilà.
Nous avons vu l'incarnation du Verbe de Dieu, en général, parce qu'il est aussi question de la paternité qui était, d'après votre exposé, d'abord binaire et qui fut donc ensuite complétée en trinité.
Oui, en effet.
Donc l'image de la paternité nous transporte dans l'éternité, dites-vous.
Oui, en effet.
Et on trouve ça... Oui, enfin, dans beaucoup d'illustrations, dans beaucoup d'images.
Pas tant que ça, en fait. Un certain nombre, mais elles n'ont pas été très nombreuses. C'est ça qui m'a toujours frappé. J'ai toujours le sentiment, si vous voulez, que la Vierge à l'enfant a, pour ainsi dire, submergé et gommé un peu les images de la paternité divine. Or, elles sont construites sur le même schéma, c'est-à-dire une figure d'adulte ayant sur les genoux, dans son sein, une figure d'enfant. Bon, alors, cela vaut ce que nous connaissons le plus de ce schéma, si vous voulez, d'inclusion d'un fils ou d'une fille dans le ventre d'une personne d'adulte. Nous le connaissons surtout de la Vierge à l'enfant. Mais ça a été appliqué au père dans sa relation au fils. Bon, or, les images du père dans sa relation au fils sont beaucoup moins nombreuses que les images de la Vierge à l'enfant.
Oui, ça c'est sûr, enfin, surtout de nos temps.
Oui.
Père François Beusplug, théologien et historien d'art, nous fait des révélations, on peut dire, sur le thème de la nativité ou de l'incarnation dans l'art médiéval. Un point me semble presque fondamental dans votre développement. Vous évoquez un procès en paradis pour instruire la cause de l'humanité. Expliquez-nous ce que ça veut dire.
Oui, en effet, c'est une idée un peu étonnante qui ne se trouve nulle part dans l'Écriture sainte. On peut relire l'ensemble du Nouveau Testament, il n'en est pas question. Bon, d'où cela vient-il ? Cela vient surtout d'un certain nombre de mystiques médiévaux qui ont, pour ainsi dire, brodé dans leur tête sur un verset du psaume 84 qui dit « Justice et vérité se rencontrent, paix et miséricorde s'embrassent ». Bon, c'est-à-dire que c'est un verset qui imagine donc quatre vertus qui se congratulent deux à deux. Bon. Et un peu comme dans un jeu radiophonique, vous voyez, où on demande aux auditeurs soit de prolonger, soit d'anticiper ce qui est raconté, au fond, les mystiques médiévaux ont formé un récit fictif, imaginaire, de tout ce qui a pu se passer en Dieu lorsque Dieu se serait rendu compte du fait que l'histoire humaine capote, va très mal depuis la chute consécutive à la tentation au paradis.
Au paradis. Hein,
bon, et ce serait consulté, aurait constitué une sorte de conseil de la Trinité, bon, et aurait écouté un certain nombre d'avocats, les uns comme vérité et justice, réclamant que le genre humain, qui est quand même crapuleux, coupable à tous égards, lamentable, vous voyez, soit condamné et sanctionné sans l'ombre, vous voyez, d'une hésitation. Et les autres, paix et miséricorde, réclamant qu'au fond, il y ait une sorte de relax par bonté, la bonté divine excluant qu'on les condamne trop sévèrement. Bon. Alors, vous voyez, on a imaginé un procès en paradis entre ces deux vertus, enfin ces deux couples de vertus antagonistes, les unes réclamant la condamnation et les autres l'acquittement du genre humain. Bon. Et cela a donné des images tout à fait étonnantes. En règle générale, souvent à l'issue du procès en paradis, lorsque finalement, au terme de ce réquisitoire, le Verbe de Dieu se lève devant le trône de Dieu et dit Père, à l'offense infinie qui t'a été infligée ne peut correspondre qu'une réparation infinie. L'offense est à la mesure de l'offensé. Tu es infini, donc l'offense qui t'a été infligée par le péché est infinie. Donc il faut que ça soit une réparation infinie. Or, seul un être infini peut t'accorder une réparation infinie. Vous voyez toute la sorte de comptabilité qui s'est produite. Bon. Et cela a donné qu'au fond, un scénario s'est créé, un scénario presque théâtral, où l'on voit le Fils de Dieu se lever, s'agenouiller devant le Dieu le Père en disant « J'irai sauver le genre humain et je souffrirai la passion par amour sur la croix pour qu'il soit acquitté. » Et comme ça, réparation sera faite, ta miséricorde y trouvera son compte, mais ta justice aussi. Donc, les quatre vertus dont je parlais à l'instant n'ont plus de raison de se disputer puisque, j'allais dire, paix et miséricorde ont leur compte, mais justice et vérité aussi.
C'est une pensée très profonde et absolument étonnante. Et je crois que c'est une des mystiques qui aurait imaginé ou développé ça, c'est Mechtilde de Magdebourg.
Mechtilde de Magdebourg. Il y a plusieurs Mechtilde dans l'histoire de la mystique allemande. Il y a Mechtilde de Hackeborn, etc. Là, c'est la Mechtilde de Magdebourg qui a, au fond, tout un monde de révélations qui annonce un peu ce que deviendront, après les drames liturgiques, les mystères médiévaux. C'est-à-dire des visions où au fond, la vie intime de Dieu est scénarisée comme si un metteur en scène s'était décidé à montrer avec des acteurs quels sont les conflits intérieurs dont Dieu est le siège. C'est extrêmement audacieux, si vous voulez, parce que ça anthropomorphise un peu la divinité. Je répète, normalement, l'essentiel est invisible aux yeux, oui. Et Dieu est, comment dire, inaccessible. Mais en même temps, j'allais dire, c'est tout à fait touchant que le Moyen-Âge ait imaginé de se rapprocher de Dieu avec toutes les puissances de l'imagination en activité. Et l'idée qu'au fond, il y ait tendu une sorte de conflit permanent entre sa justice, les choses qui n'ont pas été correctes, on ne peut pas les gommer, vous voyez, on ne peut pas oublier tout ça. Les crimes, ce sont les crimes. On ne peut pas laver tout ça. Il n'y a pas d'ardoise, vous voyez, au paradis. Et d'autre côté, l'idée que Dieu est essentiellement générosité, bonté et pardon. Dieu est une, je sais pas comment dire, une explosion atomique de générosité et de bonté. Bon, alors, comment concilier la justice, c'est-à-dire la vérité des choses, et puis la bonté en Dieu? Bon, on a scénarisé ça. Donc, il y a deux avocats. Il y a le procureur, si vous voulez, et puis l'avocat, et qui se disputent de devant Dieu.
Et ils finissent par s'embrasser parce qu'ils ont trouvé la juste solution au problème. Exactement. Par Jésus, le sauveur
et
de
Jésus
l'humanité.
Fournit au fond l'issue heureuse de ce procès.
Et cette, disons, pensée ou cette théologie ou cette mystique aurait duré jusqu'à quand à peu près? Ou plutôt, à quel moment est intervenu, disons, les changements et dans la doctrine chrétienne et dans les représentations artistiques?
Je crois que dans la doctrine chrétienne, il n'y a pas eu vraiment de changement. C'est-à-dire que jusqu'à nos jours, les théologiens sont capables de dire à quel point le couple justice et miséricorde est un couple pertinent pour penser la pensée de Dieu. Voyez. Donc cela, d'une certaine manière, ça reste valable. Ce qui a été, d'une certaine manière, invalidé, c'est l'idée de faire servir le psaume 84 dont nous parlions, avec ce verset 11 qui nomme les quatre vertus, à une sorte de mise en scène théâtrale. Alors ça, j'allais dire, ça, la ruine de la confiance dans ce schéma théâtral date grosso modo des humanistes qui ont critiqué cela comme une forme lourde, épaisse, un peu...
D'imagerie populaire.
Oui, un peu rétrograde, d'imagerie populaire, de pensée inadaptée. Oui. Donc ça a été critiqué, puis ça s'est tombé dans l'oubli.
Oui, mais disons plus largement ou plus généralement, la représentation que nous allons donc tout à l'heure détailler du Moyen-Âge diffère largement de la représentation que nous connaissons aujourd'hui, de la crèche,
de la Vierge Marie avec l'âne
et le bœuf.
Mais je crois que ce qui est arrivé aussi, c'est que la mystique franciscaine de la crèche, puisque la crèche au fond a été grandement
favorisée. Ah oui, c'est Saint-François d'Assise.
Bien sûr.
Qui a créé cette image de la crèche.
Voilà.
Bon, au XIIIe siècle.
Bon, c'est sûr qu'à partir du moment où la dévotion franciscaine pour la crèche, renforcée par, deux siècles plus tard, par la dévotion moderne, c'est-à-dire le fait de s'associer intimement, individuellement, avec tout son cœur et toutes ses forces d'esprit, à chacune des phases de la vie terrestre du Christ. Bon, ça a donné, si vous voulez, un investissement massif au cycle historique de l'enfance. Bon. Et du coup, cette espèce de préhistoire au ciel de l'incarnation dont nous débattons là, oui. Depuis le début de l'émission.
On peut dire vraiment la préhistoire.
Au ciel, oui. La prise de décision, le débat autour, les préparatifs de l'incarnation a cessé d'intéresser le grand public, je crois. C'est ce que je montre dans mes enquêtes et dans mes livres, c'est qu'il y a encore jusqu'à la fin du XVe siècle toutes sortes d'images qui se font l'écho de cette thématique médiévale, à savoir que l'incarnation n'est pas survenue brutalement, comme si d'un coup d'un seul, le Verbe de Dieu était descendu comme ça dans le sein de Marie. Non, ça a été longuement préparé, ça a été élaboré, décidé après un conseil. Bon, il y a des images de cela jusqu'au XVIIIe siècle, mais elles se raréfient de siècle en siècle. Voilà.
Et vous avez aussi, dans votre conférence, vous avez abordé une autre question vraiment sensible, celle des droits de l'artiste en Occident et en Orient. Qu'en est-il de la créativité ou de la libre expression de l'artiste dans toutes ses représentations, avant et après ?
Alors, elle est bien supérieure en Occident à ce qu'elle peut être en Orient, mais il faut avouer que cela n'a rien d'inexplicable, dans la mesure où l'artiste oriental n'a absolument pas comme ambition de se montrer ni original ni créatif. L'artiste dans la planète, j'allais dire art chrétien oriental, a pour idéal de traduire avec ses moyens à lui, qui sont la couleur essentiellement, la pensée de l'Église telle qu'elle s'exprime dans la liturgie. Tandis que l'artiste occidental, de plus en plus, au fond, va avoir comme idéal d'être considéré comme un créatif, c'est ainsi qu'on appelle aujourd'hui les artistes et les publicitaires, vous voyez, un autonome, un prophète, un visionnaire qui invente, voilà, qui est capable de révolutionner un sujet, d'apporter du neuf à tout moment. Bon. Autonomie, liberté et créativité sont les maîtres mots de l'activité artistique en Occident, mais très tôt, c'est extraordinaire. On dit toujours que ça remonte à la Renaissance, mais non, ça commence bien avant. À mon avis, ça commence à l'époque carolingienne, où l'on voit dans des manuscrits comme le Psautier d'Utrecht, donc d'époque, vous voyez, 830, abbaye d'Auvilliers, près de Reims, etc., des gens, des surdoués de la plume, qui explorent librement la possibilité qui est celle des lignes de dire quelque chose du mystère de Dieu, de l'histoire du salut, de l'énigme humaine, etc. Bon, avec une liberté, mais totale. Bon. Cela, ça ne se verra plus en Orient, parce que l'artiste a le sentiment que le schéma de composition d'une image, c'est l'Église qui en est propriétaire, c'est la liturgie de l'Église, vous voyez, et que lui, d'une certaine manière, n'a pour mission que d'être le ministre de ce message-là.
Là, quand vous parlez d'Orient, c'est les orthodoxes, enfin, oui, c'est après le schisme. Oui,
mais
oui.
C'est la Grèce d'abord, oui. c'est les Carpates, c'est les Slaves, c'est tout le patriarcat de Moscou, puis c'est Kiev, c'est Novgorod. Mais aussi, ce sera bientôt je crois que l'Église copte peut être englobée, Alexandrie, Antioche, Jérusalem, si vous voulez, tout le fond du bassin méditerranéen qui est resté plutôt dans l'orbe du patriarcat de Constantinople est concerné par une manière de concevoir l'iconographie religieuse comme reflétant la pensée profonde des pères et de la liturgie. Pointe à la ligne.
Voilà, pointe à la ligne. Je vous suggère de marquer une deuxième pause avec un chant de Noël qui s'impose avant de passer en revue donc quelques images très peu connues, encore une fois, et étonnantes qui illustrent l'incarnation dans l'art médiéval.
Oh.
Bösepflug, parmi une longue liste d'images que vous avez étudiées, vous nous avez choisi quelques-unes, peut-être les plus représentatives ou surprenantes. Alors, sur quelles images allons-nous porter notre regard ?
Écoutez, j'en ai préparé 6 qui me paraissent un peu comme les pierres du guet qui permet de passer d'une rive à l'autre, si j'ose dire. Oui. Vous voyez ? C'est-à-dire de la rive de l'éternité, du sein du Père, à la rive de l'humanité, au sein de Marie. Puisque, au fond, ma conférence et cette recherche que j'ai menée sur les images de l'incarnation, et non pas de l'incarné, de l'incarnation comme processus de décision et de préparation de cette descente, mène, au fond, du sein du Père au sein de, au sein de Marie. Bon. Alors, du coup, j'ai préparé 6 images qui me paraissent donc autant d'étapes. D'abord, une miniature de la Bible de Lothian, qui est une Bible somptueuse de fabrication cistercienne datant des années 1220 ou en page frontispice, c'est-à-dire grande belle page peinte qui est un peu, si vous voulez, bon, le, je sais pas comment dire, la page d'affiche, la page prestigieuse du manuscrit. L'on voit dans un médaillon quadrilobé au-dessus d'une création du monde en 7 jours. Dieu le Père presque en kangourou, c'est-à-dire enveloppant dans un manteau qui est ceint autour de sa taille, une figure de Christ en tout jeune garçon, et ils se regardent, et la colombe de l'Esprit-Saint a l'air de faire le lien entre leurs deux visages. C'est une image tout à fait étonnante, parce que, d'une certaine manière, elle est la traduction littérale assez osée du sens étymologique du mot saint en grec aussi bien qu'en latin, en grec kolpos et en latin sinus. Bon, le verset de saint Jean que je citais tout à l'heure, Dieu nul ne l'a jamais vu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. En kolpoi tou patrou en grec, in sinu patris en latin. Que veut dire, si vous avez un gaffio chez vous, vérifiez ce que je dis, ou un bailli en grec. Bon, kolpos, forme creuse, golfe, pli du manteau. Bon, vous avez une miniature qui a traduit ça littéralement, c'est-à-dire on voit le Fils dans le pli du manteau du Père. Ce qui est évidemment une forme de présence très intime, être dans le pli du manteau de quelqu'un. Mais imaginez quelqu'un vous mettre dans son manteau parce que vous avez froid, comme l'évêque l'a fait pour saint François d'Assise, se dénudant complètement parce que son père voulait le déposséder. Bon, c'est très intime. Bon, et bien c'est comme cela que la Bible de Lothian a imaginé de représenter le Fils dans le sein du Père avant la grande geste, au sens médiéval du terme, de l'incarnation. Première image.
Donc du XIIIe siècle.
XIIIe siècle, donc les années 1220.
Bible de Lothian.
Bible de Lothian, L-O-T-H-I-A-N. Bon. Ensuite, je vous ai préparé une image assez étonnante qui, elle, date du XVe siècle, dans un manuscrit qui est conservé à la bibliothèque Mazarine, qui est un missel à l'usage de Paris, où l'on voit tout à fait en haut Dieu le Père, revêtu d'une chape sacerdotale et d'une aube à cordon avec une tiare, dans le ciel, bénissant de la main droite et, au fond, encourageant le fait qu'une petite figure d'enfant, dont chacun de nous devine que ça va être le Christ de l'incarnation, se jette, pour ainsi dire, du balcon du ciel, comme pour tomber vers la terre. Bon. Tandis que l'ange Gabriel s'agenouille devant Dieu le Père comme pour venir au fond aux ordres et recevoir de Dieu le Père son mandat, le message qu'il devra délivrer à la Vierge Marie dans un instant. Mais en dessous, sur terre, on voit les 4 vertus dont je vous parlais à l'instant.
Oui, la fameuse justice et vérité, voilà. Et miséricorde et paix.
Donc justice et paix s'embrassent, mais miséricorde, je ne sais plus comment il faut les grouper, mais elles s'embrassent 2 à 2. Et on les voit qui tombent dans les bras l'une de l'autre. Bon. Et on ne comprend pas de quoi il s'agit tant qu'on ne sait pas qu'il y a eu ce thème du procès en paradis antérieurement à la décision de la descente du Verbe de Dieu d'auprès du Père jusqu'aux humains.
Qui a donc été imaginé par les mystiques.
Qui a été imaginé par les mystiques, mais le thème de la descente lui-même est une des catégories fondamentales par laquelle l'évangéliste Jean et tout le corpus des Écritures qui lui sont attribuées se représentent la présence de Dieu parmi les hommes, c'est-à-dire que c'est le résultat d'une descente délibérée.
Oui, la descente du Verbe.
Voilà, la descente du Verbe. Comme troisième image, de nouveau, un manuscrit du XVe siècle, toujours parisien d'origine, et qui vous représente sur deux registres tout à fait touchants. En haut, le Verbe de Dieu habillé assez sobrement, presque pauvrement, et s'agenouillant aux pieds de Dieu le Père, comme pour lui témoigner de son obéissance, mais comme le ferait aussi un vassal auprès de son suzerain. C'est-à-dire que c'est calqué sur les mœurs politiques féodales.
Oui, bon.
Donc on voit le Christ qui se fait le vassal de Dieu le Père, le suzerain, pour lui dire « je vais t'obéir, je rentre maintenant avec toi ». Non pas, je sors de mon rapport d'égalité divine avec toi pour rentrer dans un rapport de soumission obéissante avec toi.
Bon. Oui, toujours dans son rôle de sauveur.
Puisque je vais avoir un rôle de sauveur, je me fais obéissant de ta volonté de salut pour le genre humain. Bon. Et en dessous, que voit-on? Eh bien, on voit une annonciation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une articulation entre l'acte de soumission volontaire du Christ par rapport au Père et en dessous, une vierge de l'Annonciation qui attend l'ange Gabriel. Bon. Et tandis que elle est, deux grands personnages se tiennent à ses côtés, qui sont à gauche David, disant dans l'un de ses psaumes « Incline tes cieux et descends ». Alors on voit bien, c'est une prière qui remonte au premier étage de mon image.
Ah oui.
C'est assez étonnant, ça veut dire que David prie Dieu, ou le Messie de Dieu, de bien vouloir descendre sur terre. Bon. Et de l'autre côté, Isaïe, qui dit à peu près la même chose, avec des banderoles, vous savez, ces espèces de petites plages linéaires, oui, comme ça, qui permettent l'inscription des paroles prophétiques. Donc, la Vierge est encadrée de deux des prophètes de l'Ancien Testament qui, à certains égards, parce qu'ils ont dit, par leurs écrits, ont prophétisé l'incarnation.
Mm-hmm.
Donc, c'est une image, vous voyez, très, très dense et très construite, à deux étages, se relient l'un à l'autre.
Tout à fait extraordinaire, oui. Et passionnant, je dois
oui,
dire.
Voilà. Et puis, surtout, ça redonne, si vous voulez, de la profondeur de champ à la scène si connue, si aimée, d'ailleurs, en Occident, de l'Annonciation. L'Annonciation a été précédée de toutes sortes de phases. C'est ce que la mystique médiévale et l'art médiéval nous permettent de reconnaître.
Oui, on revient toujours à votre fameuse préhistoire.
Voilà, ouais. Préhistoire de l'incarnation.
De l'incarnation.
Alors, ensuite, j'ai choisi dans les heures de Catherine de Clèves, un manuscrit somptueux, très original, datant des années 1440, conservé pour partie à New York, pour partie en Europe. Une miniature très amusante où l'on voit donc en haut et à gauche le Père tiaré, bénissant et pour ainsi dire envoyant une petite figure d'enfant nu, plongeant vers la terre, une sorte de combe. Vous savez, on dirait qu'on est dans le Jura, voilà, sur les hauts plateaux. Il n'y a pas un humain dans ce paysage. Et on dirait que le Christ ou le Verbe de Dieu plonge comme ça dans le territoire humain, descend vers la terre.
Dans un faisceau comme ça lumineux.
Dans un faisceau lumineux.
Il est envoyé comme il glisse.
Comme un rayon.
Comme
voilà.
Un rayon, oui.
Et il glisse comme sur un toboggan.
Oui.
Bon. Et il va donc se planter en terre. Et il a sur l'épaule une croix qui, au fond, annonce que cette incarnation, ça n'est pas du tourisme, ça n'est pas non plus de la pure comme ça, philanthropie vague. Elle est ciblée par l'acte sauveur sur le Golgotha. Donc c'est un enfant qui s'incarne en vue d'être le sauveur du monde en croix. Bon, c'est assez original. Et juste en dessous, tout à fait en dessous, dans la page, à une époque où les bas de page sont un lieu de créativité pour les artistes, vous avez un pêcheur qui est en train de prendre des poissons à la nasse. Évidemment, ça n'est pas par hasard, c'est-à-dire qu'un certain nombre de théologiens avaient comparé la descente du Verbe de Dieu en terre au consentement qu'un poisson a d'être pris dans la nasse d'un pêcheur. Le Christ a accepté d'être pris dans le ventre de la Vierge comme un poisson dans la nasse d'un pêcheur.
Ah oui, donc le symbole ou l'analogie de sa descente.
Exactement, l'analogie de la descente, avec ce que ça suppose, si vous voulez, de consentement à l'enfermement, à la perte de liberté, de fait, le Verbe de Dieu,
oui.
C'est-à-dire la pensée de Dieu, la créativité de Dieu, l'imagination de Dieu, qui se laisse enfermer dans un ventre de femme. Apparemment, c'est une brutale perte de souveraineté, de dignité, de gloire, de liberté, de mobilité, tout ce que vous voulez. Bon, c'est pour ça que ça a été comparé à ce qu'il arrive à un poisson qui se fait prendre à la nasse.
Oui, mais les poissons sont un des symboles majeurs du christianisme.
Oui, alors ça, c'est pas ce qui
est le même.
Non,
pas
vous
la
avez
même
tout
idée.
À fait raison. On pourrait penser à une sorte de surdétermination de mon symbole. D'ailleurs, je ne l'exclus pas. Vous avez peut-être raison, mais la raison pour laquelle
certains parlent
poisson,
même de l'ère du poisson.
Oui, c'est possible.
À l'époque,
je pense pas. Si vous voulez que ça ait pu jouer, c'est plutôt la métaphore de la captivité qui a conduit à cela, plus que l'idée que le poisson est un symbole du christianisme, qui, vous savez, repose sur un acrostiche ictus. Les premières lettres du mot poisson en grec sont aussi les lettres de Jésus Christos, Theou Huios Soter, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Bon, mais c'est très sophistiqué. Je suis pas très convaincu que les peintres parisiens qui font cela en 1440 le savaient encore.
Ah d'accord. Vous avez encore une autre image?
J'en ai encore deux. Alors premièrement, un petit panneau peint d'un ensemble plus complexe qui est dû à Maître Bertram, qui est un peintre allemand, donc qui, vers 1379, nous peint une annonciation dans l'hôtel Grabow, qui est conservé à Hambourg, à la Kunstgalerie, Kunsthalle, qui est tout à fait extraordinaire parce que c'est une des premières annonciations à homoncules, c'est-à-dire des annonciations où, en plus de Gabriel, délivrant son message à Marie, il y a une sorte de diagonale théophanique avec, dans l'angle supérieur gauche de la composition, un Dieu le Père qui bénit de nouveau, une colombe qui paraît comme expédiée par lui ou délivrée par lui, se dirigeant vers le front de Marie plutôt que vers son oreille. Bon, deux façons de concevoir que Marie a conçu, soit par le front en idée, soit par l'oreille, parce qu'elle écoutait favorablement le message de Gabriel. Bon. Et dans le sillage de la colombe de l'Esprit-Saint, une petite figure d'homme nu, d'où l'appellation technique de ce genre de motif, qui s'appelle l'annonciation à homoncule, cule, un diminutif, un petit homme, l'annonciation à petit homme. Cette figure est représentant, en réalité, l'âme de Jésus que Dieu envoie pour informer le corps qui se forme dans le ventre de Marie au moment précis où elle dit son fiat, son d'accord, son oui au message de l'ange. Bon. C'est-à-dire c'est une conception des choses qui fait que au fond Marie aurait conçu au moment précis où elle donne son accord au message de l'ange. Bon. Mais pour que ce qu'elle porte en elle, la cellule humaine qui naît en elle sans le concours d'un père humain, devienne une chose humaine, une cellule humanisée, il lui faut une âme. Et cette âme est envoyée simultanément par Dieu. Donc il y a deux processus, si vous voulez, simultanés qui se font. Gabriel qui parle à Marie et Marie qui donne son consentement. C'est ce qui se passe, j'allais dire, sur le plancher des vaches, chez nous, oui, chez les hommes. Elle accepte, bon, et du coup, elle conçoit. Et puis, un autre processus simultané, Dieu le Père, au même moment, envoie l'âme qui se mariera, si j'ose dire, qui s'associera avec ce que Marie conçoit au même moment.
Sous la forme d'un bébé nu,
voilà.
Ou d'un petit homme.
Sous la forme d'un petit homme,
nu.
C'est portant
la nudité
sa croix
qui représente, là, ou qui figure l'âme.
Oui, avez... c'est-à-dire que c'est un motif qui provient, ça vient de très loin, ça vient de l'art grec... peut-être même de l'art égyptien, c'était l'idée de représenter l'âme par un homme en réduction, vous voyez. Bon, la psyché, par exemple, il y a des mosaïques assez célèbres d'époque byzantine qui représentent la psyché, l'âme humaine, sous la forme d'un tout petit bébé avec deux ailes. Bon, voilà. Donc ça a été repris par l'art chrétien pour représenter l'âme. Et alors le dernier document, justement, que je vous apporte, est une sorte de confirmation de ce que je raconte, où l'on voit un couple... un homme et une femme, au lit, un couple marié, parce qu'il y a des pantoufles au pied du lit, et que les amants d'un jour, généralement, n'apportent pas leurs pantoufles, probablement...
Vous avez tout détecté.
Mais oui, on est fort. Et vous savez, ces détails-là sont extrêmement parlants. Donc, il s'agit d'un couple légitime. Et ils sont tous les deux sagement rangés dans le lit. Et on peut imaginer que la femme est enceinte depuis une quarantaine de jours, parce que, précisément, un petit enfant nu, un petit... est peint, se dirigeant vers la femme, qui paraît expédiée par un groupe de la Trinité, entouré d'une banderole, avec une inscription latine, « Faciamus hominem imaginem et similitudinem nostram »,« Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance », Genèse 1, 26. Bon, c'est la Trinité qui est créatrice de l'âme. Bon. Or, ce que les parents ont fait ensemble en faisant l'amour, c'est une cellule qui ne deviendra humaine que si Dieu, créateur, envoie l'âme correspondante. Le couple humain n'est que pro-créateur. Dieu seul est créateur. Et il faut l'association de Dieu créateur de l'âme et des parents humains créateurs de la cellule humanisable pour que se fasse un homme, un petit homme. Alors vous voyez que ce dossier médiéval des images de l'incarnation nous permet de réviser à la fois toutes sortes de données de la doctrine chrétienne et puis toutes sortes de données de l'anthropologie et de la médecine médiévale.
Oui, écoutez, c'est vraiment absolument passionnant. On découvre plein de choses. Alors, Père Bœsplug, vous dites, mais vous-même, en forme de conclusion, que le Moyen-Âge s'en est allé, la piété chrétienne n'est plus partagée par le grand nombre aujourd'hui. Alors, on peut quand même se demander, bien que ce soit tellement passionnant, mais pourquoi montrer ces images? Pourquoi les faire ressortir de ce passé où elles ont été entérinées?
Je répondrai au premier degré d'abord pour créer du bonheur, parce que j'en ai eu tellement, moi, à les découvrir, à les rassembler, à les articuler.
Je crois que vous avez bien réussi.
Que les gens n'en connaissent pas, et vous-même, vous paraissez en connaître un peu. Bon, donc c'est pour donner du bonheur. Et ensuite, je crois, c'est parce qu'on a tellement déploré ces derniers temps la perte des clés de culture religieuse, une sorte de panne de la transmission des connaissances dans ces matières-là, que je plaide en faveur d'une attention renouvelée envers le patrimoine artistique, qui est au fond une manière non violente, très agréable, de redécouvrir le sens de la doctrine chrétienne, et en général d'ailleurs des doctrines religieuses, en analysant le sens des motifs des images. Bon, ça n'est pas violent, si vous voulez, c'est pas doctrinaire, c'est pas idéologique. C'est agréable parce que ça parle à la sensibilité. Ce sont des images qui sont pleines de charme et qui sont pleines d'expérience de l'amour, du désespoir, de l'attente, etc. Et dont se sont servis des générations et des générations de gens avant nous. Donc je crois que quelque chose d'une main tendue est offerte par ce patrimoine artistique que personnellement j'ai envie de saisir et que j'encourage à saisir pour toutes sortes de gens qui se disent mais comment au fond peut peut-on éviter une sorte de rupture dans la tradition culturelle?
Oui. Écoutez, nous, en tout cas, à Canal Académie, on était vraiment très, très heureux de vous recevoir et d'entendre vos réflexions sur ces recherches iconographiques du Moyen-Âge. Et je suis sûre que nos auditeurs dans le monde entier seront tout aussi ravis et intéressés à vous avoir écouté. Alors, je rappelle le beau livre... donc, de François Bœsplug, Dieu et ses images, aux éditions Bayard, paru en septembre 2008. En tout cas, un grand, grand merci. Vos explications sur la nativité, et donc l'incarnation, étaient pour beaucoup d'entre nous une réelle découverte. Et toute découverte est, en somme, une naissance pour l'esprit. Vous êtes d'accord?
Ah oui, tout à fait. Et merci beaucoup de votre accueil.
Et joyeux Noël à vous, mon père, et joyeux Noël à tous nos auditeurs à travers le monde. Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir.